vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié,
vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire, améliorer la gestion de votre entreprise ou encore gagner en visibilité digitale,
le FAFCEA vous accompagne financièrement dans vos projets de formation.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Il y a quasiment 7 ans, jour pour jour, Johan Cruyff disparaissait, la légende néerlandaise.
Ce 7 juillet 1974, l'ambiance est à la fête autour du stade olympique de Munich. Deux ans seulement après le drame des Jeux de 72 qui a endeuillé la capitale de la Bavière, l'Allemagne, en ce début d'été, a retrouvé le sourire en organisant pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde de football. Un mondial dont les Allemands de Beckenbauer et de Gerd Müller s'apprêtent même à disputer la finale face aux petits voisins néerlandais qui, en matière de foot à l'époque, ne représentent pas grand-chose. Pourtant, en quelques semaines, les Oranges, irrésistibles de talent et de vitesse, ont mis le monde du foot dans leur poche. Les Hollandais au look de rockstar, une bande de beaux gosses aux cheveux longs, Ray-Ban et Pat Def à la ville, qui sur le terrain portent un maillot orange flashy, frappé du lion néerlandais. Pour le journaliste Chérif Guémour, spécialiste du foot battable, ils sont tout simplement beaux à se damner.
T'avais le bleu des Italiens, le jaune d'or des Brésiliens, tu avais le maillot blanc des Allemands. Et les Hollandais sont entrés dans la caste des couleurs par le orange. Puis un maillot assez simple, dépouillé et tout, avec le gros lion noir. Et puis il y avait une esthétique, les mecs étaient vraiment beaux, c'était des rockstars et tout. C'est entre rockstars et puis ils avaient la décontraction aussi, mais qui collait à l'époque.
Mais au-delà de leur esthétique, ce dont raffolent les fans des Oranges, c'est surtout leur manière de jouer. Un foot spectaculaire, baptisé foot total, où tout le monde attaque et tout le monde défend, quel que soit son poste, et ce, à une vitesse supersonique. Un concept inventé par Rinus Michels, à l'époque entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam.
L'invention du football total, c'est une œuvre co-créée par à la fois Rinus Michels, entraîneur de l'Ajax, et Johan Cruyff. La nouvelle vision du football très moderne que Rinus Michels va inventer, c'est lui qui la met en place tout au long des années 60, quand il arrive à l'Ajax en 65. Donc il a un plan, il sait où il veut aller, et il a le cadeau inouï qui tombe du ciel, c'est-à-dire Johan Cruyff, qui va être le centre, l'élément moteur du football total.
Et compter Johan Cruyff dans ses rangs est effectivement un cadeau du ciel pour l'entraîneur néerlandais. Du haut de son 1m78, juché sur des cannes de serin, le Hollandais volant voit tout et parcourt le terrain à une vitesse phénoménale, enchaînant dribbles, passements de jambes et autres Cruyff turn avant de délivrer des caviars à ses adversaires, à ses partenaires ou des frappes qui déconcertent les gardiens adverses. Oui, Johan est un génie du ballon rond, doublé d'un organisateur né, talent précoce qui lui permettent de se faire une place au sein de l'effectif de l'Ajax alors qu'il n'est encore qu'un adolescent. Jordi Cruyff est le fils de Johan.
À 17 ans, il replaçait déjà des joueurs de 30 ans qui avaient gagné plusieurs titres à l'Ajax. Il leur disait où se mettre et comment faire. Ce n'est pas une situation ordinaire. Je pense que déjà là-bas, il a montré qu'il était différent. Normalement, les joueurs de 17 ans viennent au vestiaire en tremblant.
Le garçon a du caractère et déteste déjà qu'on lui dicte sa conduite. En 1966, à 19 ans, alors qu'il vient de faire ses débuts internationaux, il est expulsé dès sa deuxième sélection pour avoir osé contester une décision de l'arbitre et suspendu durant un an. Qu'à cela ne tienne, Johan le rebelle va pouvoir se consacrer entièrement à son club avec lequel il va tout gagner. Leur premier expo européen, les Ajaxides, leur sublime maillot blanc à large bande rouge, le réalisent en 69 dans le vieux stade de Colombes. Ce jour-là, en match d'appui européen, ils affrontent les Portugais du Benfica et leur star Eusebio, qui n'auront voir que l'arrière des chevelures des Hollandais volants.
Les Pays-Bas, à l'époque, ça sort de nulle part, ça n'existe pas. L'arrivée de l'Ajax, c'est comme une irruption soudaine à la table des grands d'un tout petit pays, d'un tout petit club. Et la sensation, elle est créée quand on apprend dans toute l'Europe que le grand Benfica a perdu en match d'appui, 3-0, hein, contre l'Ajax, avec un certain Johan Cruyff qu'on connaissait un peu. Mais là, on savait que ça commençait à devenir sérieux, quoi.
Quelques semaines plus tard, les jeunes néerlandais atteignent leur première finale européenne. Mais ce jour-là subissent la loi du Milan AC et de ses stars de l'époque, Giovanni Trapattoni et Gianni Rivera. Pour Johan Cruyff, cette défaite, l'Ajax le doit à son manque d'expérience. On devait gagner la finale de la Coupe d'Europe, c'était à Madrid contre Milan. Et on a perdu. On n'était pas moins bon, on manquait simplement d'expérience. Mais il faut analyser ces erreurs et en tirer des leçons. Et la grande période a commencé en 71. Oui, la grande période de Johan et des siens, qui à partir de 71 vont régner sur l'Europe, remportant 3 coupes des clubs champions d'affilée, gagnant leurs 14 matchs à domicile et inscrivant la bagatelle de 34 buts pour seulement 3 encaissés. Une domination sans partage des guerriers d'Amsterdam et de maître Johan, tout à la fois star de l'équipe et organisateur hors pair, Johnny Rep et Jack Swart faisaient partie de cette Dream Team des années 70.
Johan était un meneur né. Il était le moteur de l'Ajax et de notre équipe. Il a toujours dégagé ça. Et ça a beaucoup compté pour l'Ajax.
J'ai joué pendant 7 ou 8 ans avec lui. Et on a gagné 3 fois la Coupe d'Europe ensemble. C'était le meilleur.
Si les qualités footballistiques de Cruyff sont indéniables, son caractère, en revanche, va poser problème. Le taulier de l'Ajax est aussi un despote que ses coéquipiers supportent de moins en moins.
Quand le talent est au sommet et quand le génie explose, forcément, avec un mec qui a déjà un melon au départ, le melon, il devient écrasant. Et ça se finit mal parce qu'en 73, alors qu'il est capitaine de l'équipe d'Ajax et qu'il souhaite le rester, il y a un vote pour définir qui sera le nouveau capitaine pour la saison 73-74. Et pratiquement tous les joueurs de l'Ajax votent contre lui. C'est dire à quel point les joueurs ne le supportaient plus.
Une décision qui met Cruyff hors de lui. Vexé, celui-ci décide alors de quitter son doux cocon néerlandais pour gagner l'Espagne et le Barça lors d'un transfert qui rapportera à l'époque 2 millions de dollars à l'Ajax, un record. Sur les Ramblas, l'ambiance est à la fête, la Catalogne brimée par la dictature franquiste va faire de Cruyff son héros. Un héros qui de son côté va indiquer au Barça la voie du succès, Joan Laporta, le président du club catalan.
Nous ne connaissions pas à la victoire. Il y avait 14 ans que le Barça ne gagnait rien. Et il est venu, l'année qu'il est arrivé, nous avons gagné la Ligue. La décision de venir au Barça, c'est une décision d'une personne qui avait une très grande personnalité. Le normal était aller au Madrid, club de la dictature. Et Barça était le club de la liberté, de la démocratie. Et c'est pour ça que pour nous était très important que le meilleur joueur du monde décide de jouer au Barça.
Et après seulement quelques matchs sous le maillot Blaugrana, Cruyff signe son arrivée de manière magistrale, infligeant la première et seule manita de son histoire au vieux rival madrilène sur ses terres du Bernabéu. Un sacré souvenir pour celui que les Catalans vont baptiser El Flaco. Maigre peut-être, mais sacrément costaud. C'était formidable pour moi en tant que joueur de jouer à Madrid. C'était un événement important. D'abord de jouer au Bernabéu et puis, si vous avez vu le match, on a plutôt pas mal joué, je crois. Quelques mois plus tard, le Barça remporte sa première Liga en 14 saisons. Cruyff est fait prince de Catalogne. Le seigneur du Camp Nou va désormais s'attacher à remporter le dernier titre qui manque encore à son palmarès, celui de champion du monde. Pour l'occasion, il retrouve en Allemagne ses anciens équipiers de l'Ajax, mais également son entraîneur de toujours, Ines Michels, un attelage fantastique qui va marcher sur le reste du monde. Tour à tour, les oranges mécaniques roulent sur l'Uruguay, la Bulgarie, puis l'Allemagne de l'Est, avant d'anéantir l'Argentine. 4 buts à 0, c'est bon ça, dont 2 chefs-d'œuvre signés Cruyff.
Voilà le premier but, réussi par Johan Cruyff, vraiment à la limite du hors-jeu Johan Cruyff. Et après avoir éliminé le gardien, dans un angle un petit peu fermé du pied gauche, Johan Cruyff réussit le premier but.
Ne reste plus qu'un dernier obstacle à franchir avant de retrouver l'Allemagne de l'Ouest en finale. Un adversaire titanesque, vainqueur de 3 des 4 dernières Coupes du Monde, la Seleção, des Rivelino, Paulo César et autres Jairzinho. Mais les Brésiliens, orphelins de Pelé, fraîchement retraités, ne vont rien pouvoir faire, eux non plus. À la 50e minute, l'autre Johan Niskens, premier lieutenant de Cruyff, ouvre le score sur un service de son seigneur et maître.
Regardez bien la remise de Cruyff du pied droit. Et Niskens qui lobe Léao, 14e but pour les Hollandais. Niskens, l'un des meilleurs joueurs de cette formation hollandaise.
Et face aux anciens maîtres du monde, Cruyff met lui aussi le pied à la patte en inscrivant le but du 2-0. Pour leur première participation au mondial depuis 1938, les Oranges sont en finale. Cette Coupe du Monde ne peut plus leur échapper. La planète entière en est persuadée et s'attend à un nouveau triomphe de la bande à Cruyff opposé à la Nationalmannschaft d'un autre dieu du stade, le Kaiser Franz Beckenbauer. Et dès la première minute, Cruyff confirme les pronostics, s'enfonçant dans la défense allemande comme dans du beurre, avant d'être fauché par Rennes.
Et pénalty, j'ai l'impression que M. Taylor accorde un pénalty. Pénalty qui n'est pas nickel après une minute de jeu en force comme d'habitude. Et premier but, parti par la Hollande, voilà un match qui promet.
Le match a débuté il y a à peine 90 secondes que voici déjà les Hollandais devant. Ils ne vont faire qu'une bouchée des Allemands. Mais la suite sera plus cruelle pour les Néerlandais. À la 26e minute, l'arbitre accorde un nouveau pénalty. Mais pour l'Allemagne cette fois-ci.
J'ai l'impression que ce pénalty, décidément, deuxième pénalty pour une faute de Hahn. C'est Breitner qui tire. Et à contre-pied, égalité, 25 minutes.
Les Hollandais, malmenés, n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Cruyff s'agace. Gerd Müller, lui, en profite. Un avantage que les Allemands vont chèrement défendre durant la deuxième mi-temps avant que M. Taylor ne délivre tout un peuple et en accable un autre.
M. John Taylor, l'arbitre anglais, vient de siffler la fin du match. Gerd Müller, l'auteur du but décisif, va s'agenouiller sur la pelouse.
Dans les cafés, dans les restaurants, partout, l'attention a été mobilisée. Tout avait été fait pour animer la flamme des supporters et même pour encourager les plus braves. Ainsi, les dames de petite vertu du quartier réservé d'Amsterdam s'étaient offertes de travailler gratuitement 2 heures ce soir. Que restera-t-il de ce grand moment? Un bon souvenir tout de même, le visage d'un nouveau héros, celui de Johan Cruyff, et aussi ce très beau but marqué au début du match, qui permettra ce soir aux Hollandais de se consoler.
Alors je crois que bien que nos cœurs aient été pour la Hollande, eh bien il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les Allemands sont champions du monde et ils l'ont bien mérité.
Pour la première fois de sa majestueuse carrière, Cruyff n'atteint pas son objectif et ne l'atteindra jamais. Cette Coupe du Monde que Pelé, Maradona, Zidane et les autres grands de l'histoire du foot ont un jour brandi, lui, ne l'a touché que des yeux. Cela en fait-il pour autant un joueur moins prestigieux? La réponse de Cheryl Guémoir.
C'est quoi la différence entre Platini et Zidane? On n'en a aucune. C'est deux génies tous les deux, sauf qu'il y en a un qui a gagné la Coupe du Monde et l'autre qui ne l'a pas gagné. C'est pour ça que Cruyff, il est l'égal de Pelé Maradona, même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais comme il ne l'a pas gagné, bah forcément, tu laisses une trace un peu moins importante dans l'histoire.
Non, Cruyff, malgré sa classe et son palmarès ébouriffant, ne sera jamais considéré comme le GOAT. Sauf peut-être pour les gamins des 70s qui, comme moi, sont nés au football par la grâce et le talent d'une rockstar néerlandaise aux cheveux longs et aux dribbles irrésistibles.
Johan Cruyff, raconté par Christophe Cessieux, c'était mieux avant aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher Christophe. Votre petite réaction, qu'avez-vous envie de retenir? Je me tourne vers Pascal, c'était une idole de jeunesse ou pas, Johan Cruyff?
Ah oui, clairement. J'avais 12 ans là pendant cette Coupe du Monde en 1974. Et je crois pouvoir dire que c'est une de mes premières grandes déceptions que me cause mon sport favori. Il y en aura d'autres par la suite, beaucoup d'autres. Mais là, j'étais Bertie Vogts qui l'avait pris au marquage individuel. Si j'avais pu le tuer, franchement, je l'aurais tué. Parce que Cruyff, il n'a pas fait une super finale à cause du marquage individuel qui lui a été infligé par Bertie Vogts. C'est un joueur phénoménal, Johan Cruyff, d'une élégance rare.
Ok, l'idole de Pascal Duprat, Cyril Marais, il te reste quoi?
En 2014, forcément, j'étais pas né, donc, mais c'est toujours plaisant d'entendre Christophe conter ses histoires, parce que j'apprends énormément. Voilà, je savais très bien que c'était un très grand footballeur. Voilà, trois ballons d'or. Et puis, ce qui est super plaisant aussi, c'est quand tu passes dans un club et que t'as ton petit surnom à chaque fois, c'est que tu marques l'histoire. Voilà, tu vois, c'est le prince d'Amsterdam. Après, derrière.
El Flaco pour les
Catalans. Voilà, le maigre.
Voilà, souvent pour
Salvador aussi, le sauveur, il l'avait nommé aussi en catalan.
Pour les plus jeunes et les supporters parisiens, on dit El Flaco, ils pensent à Javier Pastore, non.
Le vrai Flaco, c'était
Johan Cruyff quand même. Renaud Longuet.
Très grand joueur.
Oh, il a fallu qu'il nous sorte le PSG, Jean-Christophe, alors qu'on est en train de parler de Cruyff. Oh, franchement.
D'ailleurs, est-ce que vous avez changé d'avis sur la remontada? Non, on a perdu des débats à 10h30. Pardon.
Et Renaud, et j'y sais peut-être que l'Allemagne avait acheté les arbitres.
C'est possible.
Et peut-être que Cruyff serait le GOAT, peut-être aujourd'hui. Ouais. Non, moi, ce qui, dans le récit de Christophe, il y a une anecdote qui a retenu mon attention. C'est le vestiaire de l'Ajax qui vote à l'unanimité. Ouais. Ça montre la dureté du football professionnel.
J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait nous parler du bénévolat des.
Non, mais t'imagines le mec.
C'est, de la soirée.
C'est une légende incroyable. Et il avait tout le vestiaire contre lui, quoi. Ça veut dire que bon, c'est dur quand même, les rapports humains dans un vestiaire.
Quand on lit sur Johan Cruyff, apparemment, c'était une sacrée tête de con. Hein.
Ouais.
Donc, mais bon, c'était.
Oui. Ce qui est incroyable aussi, c'est que ce garçon, Pascal, qui a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire, est devenu aussi l'un des plus grands entraîneurs. C'est quand même rare que des grands joueurs fassent de grands entraîneurs. Lui, c'est un contre-exemple en quelque sorte.
Ça m'inspire un débat, ça, bientôt dans les grandes gueules du sport. On en fera, mon cher.
Non, mais c'est l'inspirateur du jeu barcelonais, ensuite repris par Guardiola. On va dire l'apôtre de ce jeu-là, c'est Johan Cruyff, en tant que joueur, puis ensuite en tant qu'entraîneur. Mais pour un truc aussi exceptionnel, c'est qu'il fumait comme un pompier aussi.
Ouais, bah c'est la sorte
de joueur de foot qui fumait comme un pompier. Ouais.
Mais pour en venir à ce que dit Pascal aussi, on pourrait faire un débat là-dessus. Je pense que les plus grands acteurs du sport mondial, forcément, à un moment donné, c'est un peu des têtes de con, quoi. Je veux dire,
bah oui.
Tous les grands sportifs, c'est des têtes de con.
Tu dis ça pour Teddy Riner? Tu dis ça pour le copain Teddy Riner ou pas?
Ah, peut-être pas, quoi.
Pour David Douillet, avec qui tu bosses, peut-être?
Ouais, ça dira David.
Ouais, tu couperas ça au montage.
Je vais lui envoyer un petit WhatsApp.
Tu couperas ça au montage. Il y a une part chez les très grands sportifs. T'as forcément une part individuelle, t'as une part d'égoïste. Voilà, c'est toi. Et puis parce que t'es le meilleur. C'est tout. Voilà, c'est comme ça.
Mais ça me fait penser.
C'est l'ego surdimensionné.
Ouais, c'est ça.
Si on replace ça dans notre époque, aujourd'hui, et cette semaine, à toute cette histoire au niveau du capitana, on est équipe de France avec Kylian Mbappé, ça me fait un peu penser à Johan Cruyff. J'espère que ce ne sera pas la même chose avec un vote à l'unanimité contre lui au sein du vestiaire. Mais voilà, t'es un grand champion, t'es une grande star, mais forcément, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Merci beaucoup Christophe Cessieux. Tous les C'était mieux avant, à retrouver en podcast. Vous verrez juste à côté des grandes gueules du sport, il y a la petite photo de Christophe Cessieux. Vous ne pouvez pas le rater, hein, les cheveux blancs, tout ça. C'était mieux avant. Toutes les magnifiques histoires avec lui dans cette rubrique.